magazine des Nations Unies.
Gestion de la calamité de Nirangongo, la MONUSCO et le gouvernement ont été amenés à prendre des décisions radicales et rapides pour épargner la population, a déclaré la chef de la MONUSCO. Pendant ce temps, son adjoint Mac Lachlan Carr présentait le bilan des actions des humanitaires engagées sur le terrain à Goma. Les détails dans cette édition. Covid-19, la RDC connaît la troisième vague selon le ministre de la Santé. Parmi les causes de cette remontée de la pandémie, la désinformation distillée notamment dans les réseaux sociaux. Un expert en infodémologie nous en dira davantage. Discours et messages incitatifs à la haine augmentent de façon inquiétante en RDC depuis les élections de 2018. Conscient du phénomène, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme passe à la sensibilisation des cadres du ministère des Droits Humains, du CESAC et de la Commission Nationale des Droits de l'Homme ont été capacités pour contrer ces fléaux. C'était au cours d'une séquence de formation à Kinshasa. Enfin, restaurer les écosystèmes d'ici à l'horizon 2030, c'est l'objectif qu'elle s'est fixé l'Organisation des Nations Unies. Dans cette édition, les représentants de la FAO en RDC expliquent les nouvelles stratégies pour y arriver tout en préservant l'agriculture par exemple. Le docteur Astrid Ngone est notre invité. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à cette édition du magazine des Nations Unies. L'éruption volcanique de Nirangongo il y a 2 semaines et la situation sécuritaire toujours inquiétante dans les 2 provinces en état de siège, Nord Kivu et Ituri ainsi qu'au Sud Kivu, ont figuré parmi les principaux sujets de la conférence de presse de Madame Bintou Keïta jeudi 3 juin à Kinshasa. À propos du volcan, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC a déclaré que cette catastrophe naturelle a mis les Nations Unies comme les autorités congolaises dans l'obligation de prendre des décisions radicales et surtout rapides. Honoré Missenga Kalala était à cette conférence de presse.
La priorité à la suite de cette catastrophe a été de sauver des vies par la relocalisation.
Les Nations Unies ont lancé une opération de relocalisation de leur personnel de la MONUSCO. En tout, plus de 3000 employés et leurs familles pour le personnel national ont été relocalisés à Bukavu et Sake, et dans une moindre mesure dans les pays voisins.
Concernant les populations de Goma qui ont dû quitter leur domicile, Bintou Keïta parle d'une situation quasi inédite.
Plus de 230 000 personnes ont été déplacées. C'est un exode d'une ampleur quasi inédite.
Ce qui appelait la mobilisation de la mission onusienne.
La MONUSCO a fait tout ce qui était en son pouvoir pour fournir de l'eau et de la nourriture aux populations déplacées.
Tout comme de tous les autres partenaires internationaux.
La communauté humanitaire a déjà mobilisé 1,2 million de dollars pour venir en aide aux déplacés.
En même temps, la mission de protection des civils aux côtés des forces de sécurité congolaises n'échappe pas à la MONUSCO.
Les ADF et d'autres groupes armés multiplient les massacres aveugles. J'ai trouvé des autorités provinciales tout à fait conscientes des problèmes et déterminées à ramener la paix avec le soutien de la MONUSCO.
Madame Bintou Keïta revenait d'une mission de travail à Goma et à Bukavu.
Merci Honoré Missenga Kalala. Au courant de 2 semaines qui ont suivi l'éruption, 52 organisations humanitaires ont volé au secours de milliers de déplacés et sinistrés. Le bilan a été fait aux médias jeudi dernier à Goma par le chef adjoint de la MONUSCO et coordonnateur humanitaire en RDC. Monsieur David Mac Lachlan Carr précise que grâce à l'action des médias, environ 6 millions de dollars américains ont été mobilisés pour répondre à ces besoins d'urgence. Bernardin Nyangui pour le reportage.
L'éruption du 22 mai et ses conséquences ont causé la mort d'au moins 30 personnes. Plus de 3000 maisons ont été détruites. Des centres de santé et des écoles ont été affectés. À y ajouter, les 230 000 personnes qui ont été évacuées des 10 quartiers de la ville de Goma, classées dans la zone rouge, révèle le coordonnateur humanitaire en RDC. Même s'il s'est réjoui de la réponse déjà apportée par les 52 organisations face à cette crise, le numéro 2 de la MONUSCO estime qu'un autre besoin lié aux réparations des dégâts causés par cette éruption s'impose. David Mac Lachlan Carr.
Je me réjouis de la finalisation de la stratégie de réponse humanitaire à cette crise qui permettra d'apporter une assistance immédiate aux besoins des personnes déplacées, bien que tous les regards soient tournés vers les personnes déplacées à Sake, Rutshuru, Minova, il ne faut pas oublier qu'elles rentreront certainement un jour chez elles et qu'il faudra réparer ce que la lave du volcan a détruit et ce que cette évacuation préventive a engendré.
La communauté humanitaire appelle qu'à ce jour, 2 millions d'euros ont été octroyés par l'Union européenne, en plus de 1,2 million de dollars américains par les Nations unies et 3 millions d'euros par l'Allemagne pour répondre à ce besoin humanitaire d'urgence. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Concernant justement les différents gestes d'assistance aux déplacés et sinistrés de l'éruption volcanique, la société civile urbaine de Goma déplore leur mauvaise canalisation et distribution. Son président dénonce entre autres la mégestion, les listes parallèles, défauts bénéficiaires mais aussi une certaine politisation de ces aides humanitaires apportées aux populations. Comment déceler, monitorer, sensibiliser l'opinion et lutter contre le discours et messages incitatifs à la haine en RDC? C'est en tout cas l'objet d'une formation des cadres du ministère des Droits humains, de la Commission nationale des droits de l'homme et du CESAC, organisée mardi dernier à Kinshasa par le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme. Les participants ont appris, entre autres, les éléments constitutifs de messages incitatifs à la haine, les différents instruments juridiques nationaux et internationaux y relatifs, ainsi que le plan d'action de Rabat définissant le seuil entre le message incitatif à la haine et la liberté d'expression reconnu par les textes légaux. Je vous propose le reportage de votre serviteur, lu par Sarah Pelesumbula.
Dans sa leçon inaugurale, le directeur du bureau conjoint a reconnu que la RDC a connu un regain des discours et messages indicatifs à la haine depuis les élections présidentielles et législatives de 2018. Et pour Abdul Aziz Thioye, le message et discours incitatif à la haine constituent un danger social et représentent un terrain propice d'actes de violence. À titre illustratif, il a cité l'exemple de l'Afrique du Sud.
Le fait pour certaines catégories de Sud-Africains de considérer comme les étrangers, comme étant venant prendre leur place, ce type de message a pu dégénérer en violence contre tout ce qui peut être considéré comme étant étranger.
En conclusion, Abdul Aziz a invité tous les acteurs à la mise en œuvre de stratégies de lutte contre ces fléaux.
Le bureau conjoint avec l'ensemble des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies envisage d'accentuer le travail en collaboration avec les acteurs étatiques et les autres acteurs pertinents en vue d'aider à améliorer les cadres normatifs et stratégiques relatifs à l'interdiction de l'incitation à la haine.
Les participants ont tous reconnu la pertinence de cette formation. Yves Saint-Makela, conseiller en communication au ministère des Droits humains.
Nous sommes venus pour être capacités questions liées au discours haineux.
Les présidents de la Commission nationale du droit de l'homme, Mwamba Mouchon-Kenkwa, et les directeurs de cabinet du ministre des Droits de l'homme ont aussi pris la parole au cours de cette rencontre.
Parlons Covid à présent. La résistance constatée dans certains sites des vaccinations Covid-19 en RDC est due, entre autres, au flux de fausses informations véhiculées notamment dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi le programme élargi des vaccinations, une structure spécialisée du ministère de la Santé, vient d'organiser une séquence de formations de 2 jours à Kinshasa sur l'infodémie ou sur abondance de fausses informations sur une épidémie à l'intention des journalistes et membres du réseau des journalistes amis de l'enfant. Objectif, leur doter des techniques et stratégies permettant de lutter contre la désinformation sur les vaccins Covid-19. Albert Mouya, expert en infodémiologie, venu du Canada et animateur de la formation, parle du rôle du journaliste et de la responsabilité partagée. Il est à notre micro.
La population se pose des questions. Il y a de l'anxiété, il y a des interrogations, il y a des soucis. Les gens aimeraient savoir pour avoir une décision éclairée. C'est la raison pour laquelle nous appuyons pouvoir apporter l'information. Et hier, on a parlé de l'infodémie, des principes, comment les journalistes doivent découper l'information, contrôler l'information pour que les journalistes eux-mêmes ne soient pas source de la propagation de la mauvaise information, qui parfois est faite de bonne foi. Ce n'est pas la faute des journalistes, mais la personne que vous recevez n'a pas la bonne information, mais donne sa position qui est parfois prise comme étant une vérité scientifique, ce qui ne l'est pas. Raison pour laquelle nous avons voulu montrer qu'il y a des sources fiables que les jeunes peuvent utiliser. Par exemple, les ressources du PEV, qui est le programme élargi de vaccination, qui est l'organe habilité à vacciner, ou bien les ressources des comités de reports de multisecteur, des reports contre la COVID, qui est également la source habilitée à donner l'information en temps réel pour les journalistes. Nous avons essayé d'expliquer également la responsabilité partagée. On doit reconnaître qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Il y a une responsabilité partagée entre l'autorité qui est supposée donner la bonne information, qui a laissé les vides, et les journalistes qui ont pu s'abréver dans les réseaux sociaux où l'information n'était pas vraie.
La communauté mondiale a célébré ce samedi 5 juin la Journée mondiale de l'environnement sous le thème « Restauration des écosystèmes ». Cette année marque aussi le lancement de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Que peut-on alors comprendre par la restauration des écosystèmes et quels sont les défis que l'humanité doit relever pour une planète où il lui fera bon vivre d'ici à l'horizon 2030 et plus? Esquisse de réponse dans cette analyse de Maguen rendue par Honoré Missenga Kalala.
La restauration des écosystèmes consiste donc à favoriser la régénération des écosystèmes qui ont été dégradés ou détruits, ainsi que la conservation des écosystèmes encore intacts. Concrètement, restaurer les écosystèmes signifie planter des arbres, verdir les villes, réaménager les jardins, changer les régimes alimentaires ou assainir les fleuves et les côtes. Cependant, malgré les efforts menés dans ce sens, le secrétaire général des Nations Unies fait remarquer dans son message que la dégradation du monde naturel compromet déjà le bien-être des 3,2 milliards de personnes, soit 40% de l'humanité, à cause des activités de l'homme sur la planète. Les défis à relever sont colossaux. Il nous faut replanter et protéger nos forêts, nettoyer les fleuves et les mers, verdir les villes, indique Antonio Guterres. Ces gestes nous aideront à préserver les ressources de la planète, à créer des millions d'emplois d'ici 2030, à dégager des revenus de plus de 7000 milliards de dollars chaque année et à éliminer la pauvreté et la faim, conclut-il.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'UNESCO appuie la mise en œuvre de tout un programme visant l'encadrement et l'amélioration des conditions sociales des artistes congolais, en collaboration bien entendu avec des structures existantes comme la SONECA. Les représentants de cette agence l'a révélé au magazine des Nations Unies dans le cadre de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement célébré le 21 mai de chaque année. Jean-Pierre Ubildo s'est confié au Maguen. Jean-Pierre Ubildo, bonjour.
Oui, bonjour.
Le 21 mai dernier, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. On parle déjà de la semaine culturelle africaine de l'UNESCO. Alors, monsieur le représentant, qu'est-ce que c'est la diversité culturelle et quel est son rapport avec le dialogue et le développement dans le cas de la République démocratique du Congo, par exemple?
Alors, je disais que la diversité culturelle est un programme majeur de l'UNESCO, en ce que nous avons pu rédiger une convention, dite convention de 2005, sur la promotion et la protection des expressions de la diversité culturelle. Cette convention de l'UNESCO a été signée par 195 pays membres pour dire que la diversité culturelle ne peut pas être un problème. J'allais dire en termes de différence entre sexes, entre genres, entre ethnies, mais c'est plutôt une richesse extraordinaire. Et cette richesse extraordinaire, c'est lorsqu'ensemble nous pouvons engager des... La diversité culturelle est basée sur ce que nous avons aussi comme autre programme à l'UNESCO, c'est la culture de la paix. Elle contribue donc à créer cette culture de la paix. Et laquelle culture de la paix est basée sur quoi? Sur la tolérance, sur la non-violence en général, sur la solidarité humaine, sur la compréhension mutuelle entre les gens.
Et comment cela peut conduire au développement?
Vous savez que sans paix, il n'y a pas de développement. Mm-hmm. Vous voyez la situation à l'Est. Tout ce qui est entrepris ne peut pas marcher parce que il n'y a que des conflits, il y a la guerre, etc. Or, si on avait le respect de la dignité humaine, des valeurs et des différents groupes sociaux qui existent dans cette partie du Congo et du Congo en général, mais on serait en train de faire un développement réel, un développement durable.
La pandémie Covid-19 a affecté beaucoup de secteurs de la vie. notamment ici en République démocratique du Congo. Et quel est, selon vous, monsieur le représentant, l'impact de cette pandémie sur la diversité culturelle, notamment sur la chaîne des valeurs, de la valeur créative notamment, et du tourisme culturel, en RDC particulièrement?
La COVID a touché d'une manière négative. L'impact était tellement fort et négativement fort sur la culture en général, comme vous l'avez si bien dit, les industries culturelles, le tourisme, l'hôtellerie a été le plus frappé par la COVID. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faudrait penser à la résilience des artistes. Et nous avons lancé un grand programme qui s'appelle Resil Art, donc les arts. Donc, ça veut dire quoi? Que donner les moyens aux petits artisans qui produisent donc des objets d'art pour qu'ils puissent se remettre encore à travailler. C'est un grand programme que nous sommes en train de lancer depuis bientôt un an sur le Retiliat pour que vraiment ce secteur, qui est un secteur porteur, la contribution du secteur culturel sur le PIB de nos pays, c'est énorme. Il y a des pays qui font un peu 60% de leur PIB avec les aspects culturels, les aspects touristiques, etc.
Un tel programme demande aussi des moyens. Et qu'est-ce que vous avez fait pour apporter quand même cette aide ou ce soutien aux artistes congolais?
Ok, nous sommes en train de travailler sur la création d'une mutuelle. Une mutuelle, on ne veut plus voir les artistes congolais au firmament de leur gloire avec leur musique, brusquement devenir des gens dans les bars en train de manger une bouteille de bière. Donc, la grande question en ce moment, c'est la question de la mutuelle pour qu'ils aient un minimum de salaire décent par mois. Mais ce qui est plus important, les royalties, les droits d'auteur, nous travaillons là-dessus. Il faut qu'on arrête de pirater les CD, qu'on les vende devant les supermarchés, que les droits d'auteur permettent aux artistes congolais d'être vraiment à l'aise. On est en train de travailler donc à mettre en place vraiment un bureau congolais des droits d'auteur avec une participation de la police, de l'armée pour qu'on arrête les piratages.
Et là, vous travaillez avec des structures qui existent déjà comme la SONECA?
Oui, c'est une nationale, c'est qui sont avec nous, la SONECA, et aussi il y a une nouvelle structure que le cinéaste Baloufou a créée, qui est également son. Mais il faut qu'on fédère tout le monde.
Monsieur le représentant, je vous remercie.
Merci à vous et bien chose à notre radio Okapi, la meilleure des radios.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé du 3 au 4 juin dernier une formation des acteurs de la société civile impliqués sur les questions de justice transitionnelle. Là, nous sommes à Kananga, dans le Kasaï central. Les matières ont tourné autour des mécanismes de ces processus et les défis de sa mise en œuvre à la suite des violences qui avaient secoué cette province. Pour l'un des facilitateurs, Maître Dominique Kambala, ancien bâtonnier du Kasaï central, la région ayant hérité un passé lourd en termes de violations des droits de l'homme, il est important de savoir gérer cette situation pour un avenir meilleur. Partenariat britannique pour les énergies renouvelables en RDC. Un accord sur les énergies renouvelables a été signé jeudi dernier avec le consortium Moy Power. Du côté gouvernement, c'est le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité Moïse Moukaleng qui a signé cet accord de concession. Le Royaume-Uni, en étroite collaboration avec le gouvernement de la RDC, a soutenu l'étude préliminaire de développement et le processus de passation des marchés de ce projet par le biais de son programme Essor. Cet accord permettra au consortium de développer, construire et exploiter 3 mini-réseaux solaires pour fournir en électricité les villes de Guémena, Bumba et Isiro dans le nord du pays. Enfin, justice internationale, l'Australie vient de verser une contribution de $300,000 australiens au profit des victimes, contribution spécifiquement aux réparations dans l'affaire Bosco Tanganda et particulièrement aux victimes des violences sexuelles et sexistes, indique un communiqué de la CPI daté du 31 mai. Notons que ces 10 dernières années, l'Australie a activement soutenu le fonds en lui versant plus de 1430 millions d'euros pour l'exécution de ses mandats.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous le disions en titre, notre invité ce dimanche est le docteur Astrid Ongon Ombame, représentant de la FAO en RDC. Le samedi 5 juin, c'était la journée mondiale de l'environnement. Notre interlocuteur revient sur le thème arrêté cette année, à savoir restaurer les écosystèmes, la problématique des écosystèmes et les nouvelles stratégies pour arrêter la dégradation des écosystèmes tout en améliorant l'agriculture en RDC. Suivez cette interview qu'il nous a accordée. Aristide Ongone Obame, bonjour.
Bonjour.
Chaque année, le monde perd 10 millions d'hectares de forêt. Environ 30% des écosystèmes naturels d'eau douce ont disparu depuis 1970, selon les Nations Unies. Ce sont des chiffres tout à fait effrayants. Hein. Comment peut-on expliquer aujourd'hui ces phénomènes, nonobstant des politiques nationales de lutte contre ces fléaux?
La réponse est simple. Hein. Les politiques sont mises en place, mais le problème se pose au niveau de leur application. Les politiques sont bonnes, mais on ne les applique pas comme il faut. On ne prend pas les bonnes décisions malgré l'existence des politiques. Je peux résumer ça comme ça. Nous ne faisons pas ce que nous devons faire à endiguer cette situation.
Cela est dû à quoi?
Cela est dû au manque de volonté politique. Les populations ou les dirigeants, c'est surtout les dirigeants parce que ce sont eux qui orientent les actions, ne veulent pas se séparer d'un certain nombre d'habitudes, d'un certain nombre de comportements. Je prends juste un exemple pour vous illustrer ça. Cela. Depuis qu'il y a la Covid, on a beaucoup moins utilisé les gros cylindrés des voitures et des avions. Et ça a eu un effet très bénéfique sur les gaz à effet de serre. Nous avons constaté une grande diminution. C'est vraiment l'action humaine et nous ne voulons pas nous défaire de nos habitudes.
Et quels sont les grands défis à relever par les États, la RDC y comprise, en matière de restauration des écosystèmes au cours de la décennie qui commence?
Alors, nous sommes dans la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. C'est très bien, 2021-2030, et on sera comme ça à la fin de la limite hein, des ODD qui sont en cours. Il faudra pendant cette période-là, effectivement, orienter deux actions. La première action, c'est de restaurer tous les écosystèmes qui ont été dégradés. Il faut planter les arbres, il faut reverdir les villes et prendre aussi une deuxième action, c'est celle de conserver, de protéger les autres écosystèmes qui ne sont pas encore dégradés. Une action pour stopper, il faut reverdir, il faut planter les arbres. Une autre action, c'est protéger ce qui n'est pas encore dégradé.
Et là, il faut de la volonté politique.
Absolument, il faut de la volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique, on n'y arrivera pas, malheureusement.
La restauration des écosystèmes est un long processus. Alors, docteur Ongone, vous êtes le représentant de la FAO en RDC. Quelle relation y a-t-il entre les écosystèmes et l'agriculture? Et c'est ça c'est un. Et de deux, quels avantages cette restauration pourrait présenter dans le domaine de l'agroforesterie, par exemple, en République démocratique du Congo?
La restauration des écosystèmes est très, très importante. Vous savez, en RDC, on a identifié l'agriculture comme le plus grand moteur de déforestation dans ce pays. L'agriculture itinérante, surtout. Après avoir identifié, là, il faudrait à ce niveau changer les habitudes, aller vers une agriculture beaucoup plus durable. Qu'est-ce que c'est qu'une agriculture durable? C'est une agriculture qui permet de nourrir les populations en préservant les écosystèmes, en ne dégradant pas la forêt.
Comment on doit le faire?
On va le faire tout simplement en adoptant des nouvelles technologies de production. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'agriculture durable, l'agriculture intelligente, c'est-à-dire une agriculture qui, en même temps, permet un peu plus d'intensification, mais de l'intensification intelligente, et une agriculture aussi qui permet de conserver les paysages. Vous avez parlé d'agroforesterie, effectivement, en cultivant, on peut aussi restaurer la forêt en même temps.
Une question d'actualité tout de même, l'éruption volcanique de Nirangongo et les secousses sismiques survenues à Goma, bien qu'étant des catastrophes naturelles, sont les résultats d'une mauvaise gestion de l'environnement, estiment certaines personnes. Qu'en pensez-vous? Quelle nouvelle stratégie à mettre en place pour sécuriser les habitants de cette partie du pays?
Alors, est-ce que l'éruption volcanique est due à l'action humaine? C'est un long débat. Je ne voudrais pas m'aventurer dans cette question-là. Tout ce que je peux dire, c'est que le volcan est là, nous ne pouvons pas ne pas l'accepter, il est là, mais en l'acceptant, nous devons nous adapter au volcan. Le véritable problème, C'est pas le volcan lui-même, c'est la gestion que nous faisons de ce volcan. Comment voir l'avenir par rapport à ce volcan? Pourquoi on continue à concentrer la population autour du volcan? Je pense que c'est une question très importante. Il faut bien gérer ce volcan. Il est là, personne ne peut le dire que le volcan n'est pas là. Mais comment fait-on pour s'adapter? Il faut prendre des mesures qui vont mettre en sécurité les populations.
Par exemple, délocaliser les populations, aller à Sake ou d'autres localités et laisser la ville de Goma?
Par exemple, ça c'est une option très très importante. De toute façon, nous n'avons pas le choix.
Monsieur Aristide Ongoneobam, je vous remercie.
Merci.
La nouvelle des provinces nous amène à Beni. Il s'est tenu vendredi dernier un briefing des presses conjoints MONUSCO-FRDC. Au cours de cette rencontre, la responsable de l'information publique et de la communication stratégique de la mission onusienne à Beni a expliqué les fonctionnements des mécanismes d'alerte mis en place. Objectif, permettre aux communautés de lancer des alertes et prévenir les tueries des civils dans cette région. Selon Sikumbo, ces alertes doivent faciliter les interventions des soldats de la paix et des militaires congolais auprès des civils en danger. Écoutez ces explications au micro de Joël Bofengo.
Il y a un mécanisme bien huilé qui a été mis en place et il y a un système d'alerte précoce. Normalement, dans les grandes agglomérations, il a été mis en place ce qu'on appelle les comités locaux de protection. Et ces comités locaux sont constitués en général des acteurs de la société civile. À chaque fois qu'il y a une attaque où il y a une menace quelque part, ces comités locaux de protection sont saisis à travers les numéros de téléphone verts qui sont mis à la disposition de ces comités que la MONUSCO a mis à leur disposition. Les gens peuvent les saisir directement à travers ces numéros qui sont gratuits. Une fois qu'ils ont reçu ces appels, eux, ils peuvent transmettre le plus rapidement possible aux services de sécurité les plus proches. Si c'est la base des FRDC qui est la base la plus proche, ils doivent appeler directement cette base. Si c'est la base FIB qui est la base la plus proche, ils appellent cette base. Malheureusement, souvent, ce qu'on constate, c'est que les gens sont attaqués souvent la nuit, ils sont attaqués dans leur sommeil, ils n'ont pas la possibilité d'alerter rapidement, ce qui fait que souvent, les alertes arrivent après les attaques.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
À la conférence de presse des Nations Unies animée par la chef de la MONUSCO jeudi dernier, la question suivante a été posée.
C'est Isaac Nguenza pour le compte de Comex Actu Magazine. Ma question s'adresse à Madame Bintou Keïta. J'ai été personnellement présent à Goma le 3 avril 2015 lorsque la MONUSCO avait octroyé un don de matériel qui détecte les menaces du volcan. On avait placé une sirène qui devait alerter la population dès qu'on sent une menace volcanique. Et quand cette éruption a surpris la population, il y a eu des messages, ou plutôt des sources caracolées de messages comme quoi que ça fait 7 mois déjà que cet observatoire volcanologique de Goma ne contrôlait plus l'état du volcan. Moi, ma question est celle de savoir, est-ce que quand les problèmes ont commencé, vous n'avez pas reçu une correspondance de l'OVG soutenant par exemple qu'on manque ceci ou cela? C'est ça ma petite question, merci.
Et maintenant, voici la réponse de la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta.
Alors, juste pour être très clair, de ce que je comprends de tous les scientifiques, ce volcan, il a la particularité qu'il ne donne aucun signe avant-coureur. Et je pense que tout le monde a été surpris. Donc après, maintenant, bien sûr, il y a des relations de travail avec l'observatoire et ils nous ont fait leur demande. Et je sais que les collaborateurs basés à Goma sont en train d'apporter leur appui en ce qui concerne, par exemple, les moyens de déplacement, mais aussi, comme je l'ai dit, rappelez-vous, les hélicoptères et les drones contribuent à la continuation de l'évaluation.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
La Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres tiendra un atelier de suivi-évaluation à Kinshasa du 8 au 9 juin, tandis que les conclusions et les recommandations des travaux seront présentées au gouvernement ainsi qu'aux partenaires le 10 juin. Et puis le 8 juin, c'est la journée mondiale de l'océan et le 12 juin, la journée mondiale contre le travail des enfants. Voilà, Honoré Missinga et Bernardin Nyangui ont participé à la préparation de cette émission. Moi, c'est Jean-Pierre Elali Coco, j'étais à la coordination, à la présentation. Une émission que vous pouvez retrouver en tapant www.radiookapi.net. C'est le site de Radio Okapi. C'est avec un grand plaisir que toute l'équipe espère vous retrouver le dimanche prochain à la même heure pour une nouvelle livraison. Excellente journée dominicale à tous.